Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 18 novembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin sous les 90 000 $, moins 5,35 en journalier. Il repasse voilà, un petit peu en dessus, un petit peu en dessous. Pour l'instant, c'est assez catastrophique. On recule de quasi moins 15 en hebdo et on est désormais sur un moins 17 bien tassé en mensuel. Ether ne déroge pas à la règle. Il se bataille malgré tout avec ses 3 000 $ actuellement, à moins 16 en hebdo, moins 6 en journalier, moins 25 sur le mois. On a peut-être des alts qui petit à petit essaient de tanker un tout petit peu mieux face à BTC, notamment Hyperliquid, 40 $ à quasi plus 6% sur les dernières 24 heures. Monero, la reine des monnaies, on va dire anonymes, et on va voir dans un instant pourquoi finalement on pourrait avoir toujours ces monnaies anonymes qui sont recherchées, qui est en positif de 3,60 sur les dernières 24 heures, 9% sur une semaine, quasi 30% sur le mois et 100% en year to date, ce qui est loin d'être le cas pour bon nombre d'autres cryptos. Et plus on s'enfonce dans le top 30, plus voilà, on a des moins 3, moins 5, moins 11 pour Mantle, plus 15 pour ICP, moins 11 pour Pumpfund, plus 5 pour Filecoin, et on clôture le top 60 avec Sky, Caspa, Quant, VeChain, Arbitrum, Atom, Cosmos qui sont entre 1,16 et 1,35 milliards de capitalisation. Sur l'action de prix en 4 heures, c'est un peu la British Petroleum, ça cherche du pétrole malheureusement depuis le point haut ici du 6 octobre 2025 autour de 16h. Malheureusement, un enchaînement de points bas de plus en plus bas. On a véritablement eu, je pense, rétrospectivement, le switch à la fois de momentum et de psychologie sur le marché, sur cette soirée du 10 au 11 octobre que beaucoup ont trop pris à la légère lorsqu'il y a eu 20 milliards de liquidations. On a fait un rebond derrière autour de 116. Ça a bloqué à deux reprises et ça a déroulé. Je pense que c'est cet événement traumatique, malheureusement, qui nous a précipité un peu trop tôt justement en bear market. Le crypto fear and greed est à 11 dans l'extrême peur, on risque d'y rester un petit moment. Et à court terme toujours, on a cette possibilité quelque part entre 80, 83, 85, 90 d'avoir un rebond qui viendrait à nouveau s'empaler sur la zone élargie des 100 000 $. Ça pourrait laisser sortir pas mal de gens, notamment peut-être du côté des altcoins s'il y a un rebond et du côté de Bitcoin. Et ensuite, pour l'instant, c'est une trend macro en court et moyen terme qui est en train de changer malheureusement, il faudra composer avec. Sur l'année justement, Charlie Bellilio nous disait hier qu'on avait bien désormais un Bitcoin qui est en recul de 0,1, on est désormais à moins 5% si je dis pas de bêtises quand on est sous les 90 000 et pire encore, on est désormais sur un moins 30% au total par rapport aux 126 000 $. Ce qui fait que comme d'habitude, j'aime bien prendre cet exemple puisque c'est quelque chose qui parle à tout le monde, notamment pour ceux qui sont en France. Beaucoup se rongent le sang de devoir payer la flat tax quand ils sortent des cryptos en euros, c'est-à-dire donner moins de 30%. Eh bien aujourd'hui, c'est le marché qui vient de vous faire sa propre flat tax. Donc c'est souvent un truc auquel on ne pense pas forcément quand on est à 100 000, 125, etc. On se dit ok, on va peut-être jouer les 150 000, machin. Et il y a des personnes, pour 40% d'entre elles, qui n'ont pris aucun profit. Comme d'habitude, je suis obligé de faire des généralités puisque je n'ai pas accès aux data de tous ces profils justement qui investissent et qui n'ont à ce jour aucune poche de cash ou de stablecoin, donc peut-être que c'est voulu pour le coup, mais voilà, ça laisse quand même se poser des questions. On avait Fineco qui disait que les droits de douane de Trump pourraient être retoqués par la Cour suprême. Beaucoup s'en inquiètent pour un potentiel choc au niveau des actions, donc ça sera quelque chose à surveiller avec pas mal de scénarios différents au niveau de la sortie de cet événement majeur. Sur les 1500 votants donc de la dernière fois, on avait 40% qui sont toujours à 0% en stablecoin, mais comme je le disais aussi, on a une belle progression sur le 50-70% et plus, de plus 10%, quasi 25%. Donc finalement, à cette occasion, on peut constater qu'il y a quand même des gens qui ont pris des profits et bah, petit à petit, peut-être que malheureusement, il y en a qui en prendront ou pas ou qui resteront englués lors de ce bear market, puisque je pense désormais qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on rentre en bear market pour le marché crypto si on n'y est pas déjà. Et la problématique aussi à laquelle on est confronté d'un point de vue des biais psychologiques, c'est qu'il y en a qui attendent la fin extrême d'être à moins 40, moins 50, moins 60 pour dire « Ah ok, on est peut-être en bear market » et à partir de là, voilà, je ne sais pas quel est le mouvement, la latitude qu'il reste à ces personnes pour tout simplement sauver les pots cassés. Total Energy qui a annoncé l'acquisition de 50% d'une plateforme de production d'électricité en Europe de l'Ouest. EPH recevra l'équivalent de 5,1 milliards d'euros en actions de Total Energy via l'émission de 95,4 millions de titres. On avait le Japon avec le Bond 20 ans, donc au niveau de son taux qui a, nous a fait une poussée complètement verticale pour le coup. Depuis 2019 où il était à 0%, on est désormais proche des 2,8, un point haut assez historique pour le coup, puisque on ne l'avait pas vu depuis les années justement 2000 à 2010. Donc on a le gouvernement japonais qui prépare un potentiel stimulus de 110 milliards. En ce moment, c'est très à la mode, hein, les fameux stimulus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donald Trump disait que d'ici mi-2026, le fameux chèque de 2000 dollars partirait en destination des Américains. Et voilà, pour le coup, le timing est parfait, puisque à l'automne, après, il y a les midterms. Donc je pense que c'est plus un move politique qu'autre chose. Et là aussi, ben, on va voir justement ce que ça va donner pour la Cour suprême et les tarifs, puisque si ça s'est débouté, ben, je ne sais pas s'ils vont accepter de quelque manière que ce soit qu'il y ait le président des États-Unis derrière qui fasse un airdrop massif. Il faudra surveiller aussi comment se comporte la Fed, puisque Jérôme Powell devrait quitter courant 2026 donc son poste de chairman. En attendant, BlackRock continue de ventiler. On a eu hier 500 millions qui sont sortis du côté de Bitcoin et proche de 200 millions sur Ether, sachant qu'il y a quelques jours, comme on l'avait vu dans la dernière émission, c'était proche de 1 milliard qui était sorti sur Bitcoin. Donc vous inquiétez pas, ça rentre, ça sort, mais ça sort aussi très bien du côté des ETF. Très bonne nouvelle pour AAV qui lance son AAV app pour l'instant essentiellement sur iOS et c'est sur liste d'attente, donc vous pouvez vous inscrire de suite, ça n'est pas sponsorisé, j'ai jamais touché un centime de AAV, enfin voilà, je préfère le dire, et vous allez avoir la possibilité directement dans votre application donc d'avoir des taux qui seront importants du côté de la DeFi pour accéder en quelques clics directement à votre portefeuille DeFi et à tous les rendements que vous pourrez y trouver, avec la possibilité de faire un compte de savings donc automatique. Il y aura une couverture autour de 1 million de dollars. Là aussi, j'ai pas tout creusé, j'aimerais bien que Marc vienne nous en dire un petit peu plus de comment ils garantissent par rapport à une banque traditionnelle les dépôts jusqu'à 1 million par rapport à 250 000 et même 250 000 aujourd'hui en Europe, on est plutôt entre 70 et 100 000 selon les pays. Donc voilà, ils se targuent d'une assurance jusqu'à 1 million qui pourrait être placée quelque part entre le fameux module Umbrella de AAV qui garantit le défaut en cas de hack ou je crois de dette mauvaise, ou eh bien potentiellement désormais en top de ça, de Umbrella, on pourrait avoir une assurance sur les dépôts des clients. Donc je vous fais passer l'information, je pense qu'on va encore en entendre parler et on suivra ça bien entendu avec grand intérêt. En attendant, on a Bitmine qui a acheté 170 millions d'Ether, enfin pour un total en dollars d'Ether, donc pour 54 156 Ether la semaine dernière. Ils ont désormais proche de 3,6 millions à hauteur de 11 milliards. Et pour MicroStrategy et Sailor, pour ceux que ça intéresse, on est désormais sur un prix de revient autour de 74 500 dollars. Donc le fameux 75 000, ça va être une zone plus tard qui sera vachement intéressante à observer au niveau des réactions de marché. Le ratio du short-term holder supply en profit, donc les détenteurs court-terme, est arrivé à un point bas assez ultime qu'on n'avait même pas eu en 2018 ou en 2022. Donc peut-être qu'en effet, ça accréditerait la thèse qu'à court terme, on puisse avoir un rebond, peut-être même un rebond assez puissant. Selon Fortune, d'ici l'année prochaine, le CEO Tim Cook donc d'Apple pourrait tout simplement démissionner ou prendre sa retraite. Et on n'a pas encore le nom ou les noms des potentiels remplaçants. Donc là aussi, ça va être une étape à suivre avec grand intérêt quant à Apple en tant que société et en tant que direction pour la suite. MT Gox, quand je vous disais que les mauvaises nouvelles arrivent souvent en escadrille quand on est au dur du beurre, on est déjà totalement dans le sujet avec le fameux MT Gox qui bouge 956 millions de BTC sur une nouvelle adresse Unmarked. Donc on va voir là aussi s'il y a des ventes qui seront faites. Normalement, pour plusieurs années encore, ça, c'est censé être bloqué, entre guillemets, toutes ces transactions. Et on a le S&P 500 qui est sur sa quatrième journée consécutive. Donc la dernière fois que c'était arrivé, c'était autour du mois d'août, à la mi-août, où on avait perdu donc quelques centaines de points. On est désormais passé par rapport à un point haut de 6950 points, approximativement à 6600 points pour le S&P, sur lequel pour l'instant, eux, c'est une correction tout à fait normalisée, mais qui pourrait s'étendre un petit peu plus si en effet on avait le marché qui commençait à corriger au niveau des États-Unis. Et c'est là où le bât blesse, puisque Sur toute cette envolée qu'on a connue, notamment pour les États-Unis courant 2025, on n'a pas su capitaliser sur ça du côté du marché crypto. Le gold aussi a fait un énorme trou noir aspirateur de liquidités en partance donc en direction des 4 400 $. On avait eu le break, pour rappel, en février 2024, ici, des 2000-2050. Donc on a eu deux grands sujets, l'IA, la bulle de la tech aux États-Unis, le gold, et tout ça, malheureusement, n'a pas permis au Bitcoin de s'exprimer pleinement. Alors tout est relatif puisqu'on est quand même passé de 15 500 à 126 000, rappelons-le, en seulement 3 ans de temps, donc de novembre 2022 à novembre 2025, même si le top factuellement pour l'instant a plutôt été début octobre, mais bon, ça fait approximativement 3 ans. Là, d'un point de vue du court moyen terme, bien entendu que c'est extrêmement dégradé. On a perdu moyenne mobile 20, on a retesté la zone ici de cassure des 108, on n'a pas réussi à la reprendre, on perd derrière avec une bougie impulsive la moyenne mobile 50 qui aujourd'hui se trouve à 102 700 et qui a tenu littéralement l'intégralité de ce cycle. Donc désormais, on a le 0.382 en zone de chute suivante qui nous attend autour de 83 800 avec la moyenne mobile 100 qui est à 83 200 pour sa part. On voit qu'on a un petit intermédiaire sur lequel on est en train d'hésiter à 89,90. Le RSI hebdomadaire a bel et bien validé la cassure baissière de cette zone de support autour de 44 et on est en pleine accélération baissière sur zone neutre pour l'instant au niveau du momentum MACD. Donc tout ça accrédite la thèse d'une correction qui va perdurer à court et moyen terme, modulo le fait qu'en journalier, ça ne serait pas déconnant de revoir un backtest, peu importe si on trouve du support à 80, 85 000 ou 90 000, là immédiatement, de revenir backtester les 100 000 pour derrière potentiellement repartir en direction des 75. Puis si on franchit les 75, ça déroulera assez vite. On ira à 70, 65, 55 et par la suite courant mi-2026, maximum automne 2026. J'espère vivement qu'on aura réussi à poser, comme à chaque cycle, notre bottom. N'en déplaise malheureusement pour l'instant à ceux qui essaient de jouer contre les statistiques, de se dire oui, ce cycle est différent, on n'a pas de cycle de 4 ans, ça va aller mieux plus tard. Peut-être que vous aurez raison et je vous le souhaite à tous qu'il y ait un petit peu mieux en 2026 plutôt qu'un bear market. Mais pour l'instant, de la façon dont c'est en train malheureusement de se matérialiser, inutile de se mettre des œillères, là pour le coup, on est en train de rentrer factuellement en bear market. Au niveau du crypto total, les 3000 milliards en ligne de mire, donc là aussi c'est statu quo, peut-être rebond à court terme, mais c'est la dernière zone de défense avant de rentrer beaucoup plus bas, bien entendu. C'est le record de novembre 2021, pour rappel, les 3000. Donc pareil, hein, ça validera totalement si on passe en dessous le fait qu'on rentre en bear market. Au niveau des objectifs, on a le 0.382 qui est pas mal aligné à 2009. Ensuite, on a la moyenne mobile 100 qui est autour de 2008. Le 0.5 de Fibo à 2500 tout rond, ça nous arrange pas mal. Au moins, on a des comptes ronds. 0.618 qui sera aligné d'ici, allez, début 2026 avec la moyenne mobile 200 à 2000 milliards. Ça pourrait en faire une très bonne zone de DCA qui correspondrait de nouveau avec un Bitcoin autour de 50-60 000 $. Vous vous souvenez de cette fameuse dominance des stablecoins dont quasiment personne n'a parlé nulle part? Eh bien, nous la suivons au jour le jour, semaine après semaine, et nous avions détecté une pattern ici qui pouvait faire penser à une épaule tête-épaule inversée. Elle est super moche, c'est du Quasimodo pour le coup, mais pas mécontent de vous avoir mis en avant et en garde quelque part sur la chaîne ces derniers mois sur le fait que on n'avait pas un marché qui était porteur ni du côté des alts ni tout court pour le marché crypto. On avait cette sensation qu'on ramait littéralement et ça s'est retranscrit derrière malheureusement par des prises de profit des professionnels, des institutionnels et aussi de ceux qui capitulent, qui paniquent, puisque actuellement, rappelons-le, énormément de bitcoins sont vendus à perte. Donc aujourd'hui, on est au contact de la moyenne mobile 200 à 0.09. Si on franchit cette zone, on peut encore accélérer, bien entendu. Le point haut de 2022, donc en juin 2022, était à 0.17 en termes de dominance de stablecoin face au crypto total. Il est à noter que ce début de semaine est placé sous l'égide d'un VIX haut au niveau de l'indice de la peur et de la volatilité pour les États-Unis, le S&P 500. Donc 22-23, ça commence à devenir préoccupant. Là où on sort le chéquier, c'est quand on rentre entre 36 et 60, voire 80-100. Voilà, là, c'est quand vraiment il y a des énormes shoots de marché. Donc que ça soit du côté du S&P ou pour la crypto, en général, c'est des moments qui sont quand même assez extraordinaires d'un point de vue, en tout cas, des marchés. Le DXY autour de 100 points, pour l'instant, ça ne passe pas. Mais toujours pareil, ça tricote. On a des marchés qui sont dans cette indécision. Comme le disait Fineco la dernière fois, ils sont tous couverts et ils n'ont pas véritablement de directionnel. Le souci, c'est que d'un point de vue purement, on va dire, voilà, visuel, quand on a un S&P 500, un Nasdaq qui sont aussi hauts et qui nous ont fait littéralement le tyrolien, comme on l'avait fait ici à l'époque de octobre 2023 à cette cassure en février 2025, ça risque plus ou moins de faire pareil. Et si 2026 est placé sous le cadre comme ça, de nouveau d'une correction majeure, la moyenne mobile 200 aujourd'hui, elle est autour des 5000 points, légèrement en dessous. Donc un simple retour aux moyennes long terme par rapport au top qu'on a trouvé récemment à 6900 et plus, ça nous fait un moins 28% du côté du S&P 500. Inutile de vous dire que si les indices américains perdent entre moins 20 et moins 30% en 2026, eh bien ça sera assez cataclysmique de nouveau du côté du marché crypto. Concernant Ether, la seconde crypto-monnaie du marché, on est en train de perdre aux moyennes mobiles 100 et 50 en hebdo, mais on a le support juste sous les pieds autour de 2850, donc on espère que ça va tenir. Bien entendu, si Bitcoin continue de dérouler à la baisse, Ether ne va pas partir tout seul. On a ensuite la moyenne mobile 200 autour de 2450. Le gros point de pivot où personnellement, ça m'intéresse en général pour payer Ether autour de 2150. Ensuite, on continue en direction des 1008 et par la suite, c'est le point bas d'il y a deux cycles autour de 1400$. Donc, toute la zone, on va dire, entre 2150 et 1400-1500 peut faire office de DCA. La question, c'est si vraiment on a un cycle qui se gâte par la suite dans le temps, parce qu'on a tous tendance, ça aussi c'est un problème, à recharger trop tôt lors des différents bear market crypto. Est-ce que Ether pourrait rebasculer sous les fameux 1400? Voilà, c'est plutôt ça la question. Donc essayons de ne pas mettre la charrue avant les bœufs comme d'habitude et d'être assez proactif sur ce qui est en train de se dérouler au niveau du marché. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me poser des questions sur la dernière vidéo de pourquoi, de comment le DCA un peu trop tôt, pourquoi on ne fait pas un DCA intelligent. Est-ce qu'on a des stratégies? Enfin, je vais essayer de faire une émission un peu à part ou un live pour répondre à vos questions. Et par contre, il y a des vieilles vidéos sur la chaîne d'il y a un an, deux ans, trois ans où on faisait les meilleures méthodes pour DCA, où on faisait comment sortir du marché ou des trucs comme ça. Donc, vous avez des masterclass que vous pouvez tout à fait retrouver en tapant dans la barre de recherche de la chaîne ce qui vous plaira. Et normalement, vous trouverez chaussures à votre pied, tant pour la recharge sur les points bas que la prise de profit sur les points hauts. Petite mention au niveau des actions américaines autour de Google qui voit sa participation prise par Warren Buffett dans des proportions assez colossales pour le coup, donc ça a poussé récemment le titre proche des $300, mais bon, pour l'instant pareil, on est plutôt sur des signaux topiches ici, y compris pour Google. On avait Tesla qui à court terme était un petit peu boudé et qui malheureusement n'a pas réussi la percée autour des $490, donc retour à la moyenne mobile 20. Pour l'instant ça va être un énorme statu quo je pense pour Tesla pour les prochaines années, puisque il y a à la fois ce stimulus d'Elon Musk qui a été voté, ce grand chèque de 1000 milliards sur toutes les prochaines années s'il arrive à délivrer des objectifs qui sont selon les experts financiers quasi inatteignables, et d'un autre côté il y a ce virage par rapport à l'IA, par rapport à la robotique. Ça n'est pas une simple société bien entendu de véhicules électriques, donc ça reste un énorme risque Tesla, un énorme pari sur l'avenir. On a toujours des Cathy Wood et consorts qui pensent que ça pourrait être la première société devant Nvidia à atteindre les 10 000 milliards peut-être un jour. Donc bon, comme d'habitude, faut doser, mais voilà, je vous fais passer les informations et les ressentis de marché en temps réel. On clôturera donc avec les sociétés liées aux cryptos directement. Donc on a Bitmine qui continue de dérouler autour de $31, donc compliqué pour l'instant. Il faut laisser le couteau se planter puisque pour l'instant, sous peine de vouloir l'attraper en cours de route, on risque de se faire mal. C'est exactement la même musique du côté de Coinbase. On va arriver rapidement au combo moyenne mobile 100,05 de Fibo qui se trouve autour de $240. Pareil, on a perdu le RSI médian, le support autour de 46,47, donc il faut le laisser dérouler. On a Circle qui est en train de revenir à son prix d'introduction. On risque même de l'avoir au cours du bear market en dessous. Ceci étant dit, je soupçonne le fait que les premiers acheteurs essaient peut-être de défendre un petit peu cette zone dans un premier temps autour de $64-$65. Ça reste assez spéculatif, mais j'attends de voir comment vont se positionner les gens. On voit quand même qu'on a une énorme bougie de volume ici hein, sur novembre. Donc c'est bien que ça déroule maintenant. Ça va nous offrir de très belles opportunités pour la suite. Et ça, on sera les premiers à en parler justement quand on est en train de poser un bottom sur ces sociétés pour nous faire des petites opérations comme on a pu faire sur Coinbase au cycle baissier précédent. MicroStrategy qui lui aussi souffre énormément puisque on est désormais par rapport à cette mèche folle des $543 en recul de 64-65% à $195. Moyenne mobile 200, ça serait pas mal pour commencer à charger Stratégie à $140. C'est l'ancien record ici de février 2021. Donc clairement, personnellement, de base, j'ai pas franchement envie de m'exposer à MicroStrategy. Je pense même que ça peut commencer à tenir ici autour de $195-$200. Dans l'idéal, j'aimerais le voir autour de 140 et là, très certainement que je mettrai une petite louche. À noter qu'il est en survente en hebdomadaire et que la dernière fois que c'était arrivé, c'était en mai 2022 et on était en train de faire le range ici de points bas. Donc, on a quand même des signaux assez ambigus à court terme qui sont envoyés de la part du marché. On a les alts qui commencent à tenir un petit peu mieux face à une Bitcoin dominance qui est en train de reculer alors même que Bitcoin est en train de chuter. On a MicroStrategy qui a corrigé très largement en amont par rapport au Bitcoin lui-même et qui peut-être pourrait trouver un point bas avant que Bitcoin trouve son propre point bas. Donc c'est assez exaltant, j'ai envie de dire, ce qui va se passer sur cette fin d'année 2025 et je pense que 2026, de très loin, on n'est pas au bout de nos surprises. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas si on se retrouvera mercredi du coup. Normalement, le mardi, on enregistre d'autres émissions et c'est le jour off. Je reste avec vous, bien entendu, pour essayer de décrypter au mieux ce qui se passe dans ces temps obscurs et troubles et agités en ce moment, puisque vous devez vous poser énormément de questions. J'ai la possibilité aussi, en ce moment, j'ai été contacté par une psychologue clinicienne donc, qui est chercheuse au CNRS et qui va écrire un ouvrage autour des biais cognitifs lié à la crypto spécifiquement. Donc je vais essayer de participer à la fois peut-être à l'étude en tant que tel, en tant que sujet ou cobaye, ou même de répondre tout simplement à ces questions. Et je pense qu'on pourra en retirer quelque chose d'excessivement positif puisque on est rempli au quotidien en tant qu'être humain de biais qui sont tout aussi désastreux les uns que les autres par rapport à la fois à la vie de tous les jours et encore plus quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de mettre la poussière sous le tapis et de ne pas regarder les choses en face quand ça fait mal. Et c'est vrai que l'argent est à placer tout en haut de cette liste des biais cognitifs sur lesquels on déploie un armada malheureusement de défense psychologique pour essayer justement de nous rassurer ou de ne pas voir les choses en face. Donc je suis assez content d'avoir été contacté par cette personne et bien entendu petit à petit je vous donnerai des nouvelles en fonction de l'avancement. Très bonne journée, continuez d'être fort, continuez d'être prudent et dites-vous que en ce moment on est en train de construire potentiellement les opportunités de demain qui nous serviront dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Désormais, dans tous les cas, comme vous l'aurez compris, pour ceux qui atterrissent là aujourd'hui ou qui voient cette vidéo aujourd'hui, vous êtes là pour un minima quelques années. Donc prenez à la fois votre mal en patience et dites-vous que bah justement, sur un temps suffisamment long, vous en verrez quelque chose de bien plus positif. Passez une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.